Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, suite de notre 5 à 7 consacré aux nouvelles formes démocratiques. Faut-il confier la démocratie au peuple ? A-t-on déjà vu autant de personnes au chevet d'un seul et même malade ? La démocratie est souffrante, elle collectionne les diagnostics. Système à bout de souffle, déconnexion des élites, corruption et conflits d'intérêts, absence de renouvellement des idées comme de ceux qui les portent, représentants qui ne représentent plus qu'eux-mêmes, etc., etc. Le mal est profond, les remèdes inventifs. Des décoctions censées rendre la démocratie plus directe, plus liquide, plus participative, plus radicale, plus conflictuelle. Là encore, la liste est longue. Le renouveau démocratique, en tout cas, est bien le grand sujet du moment. C'est au nom de ce renouveau que le mouvement Nuit Debout a émergé, d'abord à Paris, avant d'avoir une audience nationale. Et c'est le même auteur qui est revendiqué par les promoteurs d'une primaire citoyenne en vue de la présidentielle de 2017. Deux initiatives parmi beaucoup d'autres qui témoignent d'une volonté de redonner la parole à ceux qui estiment en être privés. Alors faut-il confier la démocratie au peuple ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Chantal Mouffe. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, vous enseignez la théorie politique à l'université de Westminster à Londres. Vous êtes considérée comme une des inspiratrices du mouvement Podemos. Et Albin Michel vient de publier et de traduire un de vos ouvrages qu'il a déjà dit il y a quelques années et qui s'intitule « L'illusion du consensus ». Pour discuter avec vous, Dominique Rousseau, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de droit constitutionnel à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature. Vous avez publié l'an dernier aux éditions du Seuil « Radicaliser la démocratie, proposition pour une refondation ». Et puis nous sommes toujours en compagnie d'Arnaud Contreras. Bon, rebonsoir Arnaud. On a entendu tout à l'heure votre documentaire dans Sur les Docs, Jour et Nuit Debout, que vous avez signé avec Julie Beressy. Vous intervenez un petit peu comme on le fait Place de la République, c'est-à-dire quand vous le souhaitez durant cette émission. Mais c'est pas avec Nuit Debout que je voudrais démarrer la discussion, mais plutôt avec un autre outil qui est peut-être un outil finalement plus évident, même si on en parle peut-être moins en ce moment. Outil qu'on peut confier au peuple pour exercer la démocratie, c'est celui du référendum. Il se trouve qu'il y a quelques jours, aux Pays-Bas, il y a eu un référendum d'initiative populaire qui a été organisé sur l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine. Cette initiative populaire a été rendue possible par une loi de juin 2015 aux Pays-Bas. Et donc, le résultat de ce référendum, c'était de rejeter cet accord d'association. Est-ce que par rapport au résultat qui est celui de ce référendum, Chantal Mouffe, vous dites bravo, il faut promouvoir les référendums d'initiative populaire, ou bien est-ce qu'au contraire, le résultat démontre peut-être les limites de ce genre de procédé ?
Non, moi je crois que ça dépend quel rôle on va donner au référendum. Je ne suis pas de personne qui considère qu'en fait il faut finir avec la démocratie représentative et pour toutes les questions importantes faire des référendums. D'un autre côté, je crois qu'on peut certainement faire place au référendum à l'intérieur d'un système donc de représentatif. Ça peut être une façon justement de redonner un peu de conflictualité, parce que moi je crois que à mon avis nous vivons aujourd'hui une crise de la démocratie représentative, ça y a aucun doute. Mais alors là la question ça vient de comment, quelle est la raison, comment on peut y pourvoir. Et comme je le disais, certains pensent que c'est une crise de la démocratie représentative forcée. Donc la solution, c'est une autre type de démocratie qui serait par exemple uniquement des référendums. Ou alors, moi je serais plutôt pour une espèce de combinaison entre des initiatives populaires, des référendums, mais pour élargir un peu le cadre de la participation. Donc je ne suis pas contre le référendum, je trouve que ça peut servir, mais enfin je ne suis pas non plus celle qui dit, le référendum c'est la solution.
Ce que vous expliquez dans votre livre « L'illusion du consensus », Chantal Mouffe, c'est que le conflit est nécessaire pour régénérer et alimenter la démocratie. Alors c'est vrai que dans le cadre d'un référendum, là, les éléments du conflit y sont présents, puisqu'il n'y a pas beaucoup de choix finalement. Soit on répond oui, soit on répond non. Mais le choix, on va dire, est assez tranché.
Oui, mais justement, c'est pas très agonistique en réalité, hein, parce que et surtout, il faut voir aussi qui pose les questions et comment elles sont posées, parce que c'est ça qui va déterminer un peu la réponse. Et pour ça, moi, je suis assez prudente, disons, sur la question du référendum. Mais je ne voudrais pas dire que c'est quelque chose d'intrinsèquement mauvais. Mais dans certains cas, justement, je crois que ça peut servir pour mettre sur le tapis. Et bon, en fait, lorsqu'il y a vraiment une situation où il n'est pas possible de prendre une décision parce qu'il y a trop de points de vue qui s'opposent, à ce moment-là, bon, avoir recours au peuple pour décider, oui, pourquoi pas.
Il me semble, Dominique Rousseau, après vous avoir lu, que vous êtes beaucoup plus hostile que Chantal Mouffe à ce principe du référendum.
Oui, vous parliez de rénover la démocratie, de la refonder, etc. Bon, on ne refonde pas quelque chose avec un instrument ancien. Le référendum, pour moi, est un faux ami de la démocratie. S'il s'agit de redonner le pouvoir au peuple, c'est pas pour permettre au peuple ensuite d'acclamer une solution, d'acclamer celui qui a organisé le référendum. On a tout entendu, hein, sur la crise de la démocratie représentative. Il y a déjà des auteurs qui, au début du XXe siècle, estimaient que pour atténuer le caractère hyper représentatif de la démocratie, il fallait le référendum. C'est les vieilles thèses de Karine Malberg. Il y en a certains qui disent qu'il faut supprimer la démocratie représentative et faire que du référendum. Je considère que le référendum n'est pas, quitte à choquer, hein, mais quitte à nuancer aussi, mais c'est la discussion, je considère que le référendum n'est pas un instrument de la démocratie, n'est pas un instrument qui correspond à ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France, en Espagne, au Portugal, ailleurs. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est plutôt la remise en cause du suffrage universel, la remise en cause du vote comme critère de la qualité démocratique d'une institution ou d'une décision. Et ce critère du vote, or le référendum, qu'est-ce que c'est ? C'est le vote. Le critère du vote est aujourd'hui concurrencé, je ne dis pas remplacé, mais concurrencé par un autre critère de la qualité démocratique d'une décision ou d'une institution, c'est ce qu'on voit, c'est la parole. La parole, l'échange, les désaccords entre les uns, les autres, et c'est ça qui fait la démocratie. Or, le référendum est quelque chose qui clôt par le vote un échange, une conflictualité, et qui, comment dire, assèche en quelque sorte le débat.
Je pense qu'il faudrait aujourd'hui désacraliser le vote pour montrer que ça n'est pas le seul moyen d'expression démocratique.
Si vous voulez aujourd'hui rénover, comme vous disiez tout à l'heure en introduction, si vous voulez rénover la démocratie, je pense qu'aujourd'hui, on le voit, ce qui est en jeu pour rénover la démocratie, c'est plutôt la parole, les échanges contradictoires, la contradiction, on n'est pas d'accord, on discute. C'est plus ça aujourd'hui que les sociétés attendent, plutôt qu'un référendum qui coupe.
Chantal Mouffe, oui, la parole
oui,
plutôt que
oui,
le vote.
Oui, mais non, mais c'est-à-dire, je crois qu'on est d'accord sur un point que il faut pas remplacer la démocratie représentative par le référendum. Là, je suis d'accord. Mais par contre, je crois que je ne suis pas non plus contre, dans certaines circonstances, l'usage du référendum. Mais pour revenir à cette question de la crise de la démocratie représentative et du vote, il y a en fait des expressions, des trucs, des indignados espagnols que je trouvais très 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 juste, parce qu'ils disaient tenemos voto, pero no tenemos voz. C'est-à-dire, nous avons un vote, mais nous n'avons pas de voix. Et en fait, je crois qu'ils avaient tout à fait raison, mais peut-être pas pour la même raison que Dominique Rousseau, parce que je crois, pour moi, la crise de la démocratie représentative, bon, d'abord, j'ai déjà dit que ce n'est pas une crise de la démocratie représentative per se, non. Par contre, je crois que le problème aujourd'hui, et cette démocratie n'est pas représentative, parce que lorsque les citoyens vont voter aujourd'hui, à cause justement de ce que je dénonce dans l'illusion du politique, ce que j'appelle une condition post-politique.
L'illusion du consensus, hein, pas du politique. Le titre de votre livre.
Oui.
C'était juste pour vous reprendre sur l'erreur de titre.
Oui, pardon. Oui, l'illusion du consensus. D'accord, oui, excusez-moi. Non, là, en fait, ce que j'essaie de montrer, c'est que la raison pour laquelle il y a une crise de la représentation, c'est parce qu'il n'y a pas la possibilité d'un débat agonistique. C'est-à-dire, lorsque les citoyens vont voter, du fait qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre le centre-droit et le centre-gauche, finalement, ils n'ont pas le choix. Ils vont voter, mais il n'y a pas de choix. Donc, ils ont, oui, un vote, mais ils n'ont pas de voix. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec la question. Mais la solution pour moi, c'est justement de redonner la possibilité d'avoir un véritable choix. Et ça implique, alors là, je suppose que Dominique Rousseau ne sera pas d'accord avec moi, qui est parce que pour moi, la politique, ça a toujours à voir avec l'établissement de frontières. C'est-à-dire, c'est la création d'un « nous » qui requiert nécessairement la détermination d'un « eux ». C'est pour ça que je crois, par exemple, contrairement à des auteurs comme Anthony Giddens et Ulrich Beck, que l'effacement de la frontière entre la droite et la gauche n'est pas du tout un progrès pour la démocratie. Au contraire, c'est quelque chose qui met la démocratie en péril. Donc, il faut rétablir une frontière. Et à ce moment-là, les citoyens auront la possibilité de faire un véritable choix.
Dominique Rousseau.
Oui, je crois que la crise de la démocratie, c'est pas la crise de la démocratie, c'est la crise de la forme représentative de la démocratie. Et l'expression, par exemple, post-démocratie, j'ai du mal à la comprendre, dans la mesure où, pour l'instant, nous ne sommes pas dans un régime démocratique, nous sommes dans un régime représentatif. Et la démocratie, elle est à venir. Bon, et c'est en ce sens qu'on ne peut pas dire qu'il y a une post-démocratie aujourd'hui, mais il y a longtemps qu'on le dit, on est dans une plutôt-démocratie, c'est-à-dire dans un régime où ce sont, disons, les grandes entreprises qui imposent aux hommes politiques leur politique publique. Et on voit bien aujourd'hui, ou récemment, que les gouvernements qui ont été renversés, que ce soit en Irlande, que ce soit en Grèce, que ce soit en Espagne, que ce soit en Portugal, ou même Berlusconi en Italie, ils n'ont pas été renversés par des sit-ins, ils n'ont pas été renversés par leurs électeurs, ils ont été renversés par les banquiers qui leur ont imposé de suivre telle politique. Nous sommes donc nous sommes pas dans un régime démocratique, nous sommes dans un régime plutôt démocratique. Et ce vers quoi il faut aller, c'est vers une démocratie. La question des frontières entre le nous et le ne me gêne pas. Je veux dire, on est évidemment constamment dans une société de contradictions, dans une société de conflits non pas simplement entre nous et eux, mais des conflits entre nous. Je suppose que dans la Nuit debout, il y a des conflits entre ceux qui veulent que ça s'institutionnalise, d'autres qui veulent pas que ça s'institutionnalise. Il y a des contradictions entre ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent à la campagne. Il y a une multitude de contradictions. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est précisément que cette multitude de contradictions se mette en marche, pas au sens de Macron, hein, mais en tous les cas se mette debout. Parce que ce qui est contesté, me semble-t-il, c'est précisément le « eux » et le « nous ». Le système représentatif est un système qui fait que le « eux », c'est-à-dire les gouvernants, ont le monopole de la fabrication de la volonté générale. Et le « nous », c'est un « nous » qui reçoit cette volonté générale qui a été fabriquée par le « eux ». C'est ça le système représentatif. Et c'est ça, je crois, aujourd'hui, qui est remis en cause. C'est-à-dire qu'on ne veut pas aménager un système où il y a le « nous » et le « eux », c'est-à-dire un système vertical. On veut passer à un système horizontal où c'est le « nous » et les contradictions à l'intérieur du « nous » qui vont trouver les institutions. Je pense, par exemple, au tirage au sort, je pense aux lanceurs d'alerte, je pense aux assemblées primaires citoyennes qui vont faire vivre cette contradiction, sans faire Mao Tse-Tung, les contradictions secondaires par rapport aux contradictions primaires, qui font faire vivre cette démocratie qui ne sera plus la forme représentative.
Puisque nous sommes en compagnie d'Arnaud Contreras, donc, qui suit depuis plusieurs jours ce mouvement Nuit Debout République. Arnaud, est-ce que la question du conflit, elle est présente dans ce que vous entendez dans les différentes assemblées générales et les prises de parole? Et comment est-ce qu'elle est réglée? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, le vote est un outil qui est mis à la disposition des gens qui sont présents pour essayer de régler les conflits?
Alors, il y a le vote, il y a surtout, en fait, le plus important est la préparation du vote, à savoir la phase de modération. Il y a une grande phase de modération, de discussion autour des thèmes abordés qui sont préparés en commission et qui sont ouvertes. Si je peux me permettre, vous parlez énormément d'outils démocratiques qui seraient en panne, vous parlez énormément d'éventualité d'utiliser le référendum. Le sujet aussi qui apparaît énormément, c'est le manque de transparence. Il y a une transparence avouée des politiques, c'est-à-dire que les outils pour la transparence sont là, l'open data existe pour un certain nombre de données publiques, mais il n'y a pas le mode d'emploi qui est confié aux électeurs. Et il y a une volonté, enfin moi ce que je ressens aussi, pas uniquement au niveau de Nuit Debout, mais dans mes contemporains, auprès de mes contemporains, c'est l'utilisation de ces datas. Comment utiliser toutes ces datas? Comment utiliser cette transparence qui peut nous permettre de voter différemment?
Chantal Mouffe.
Oui, non, mais là, je crois qu'ici, il faut quand même clarifier un certain nombre de choses. Par exemple, quand je parle de nous, eux, je parle le eux comme étant nécessairement l'élite. Je dis, pour moi, la politique, ça a nécessairement à voir l'établissement d'une frontière entre nous et eux qui peut être créée de manière différente. Mais, par exemple, ça implique qu'il y ait véritablement des possibilités de choix entre des politiques qui sont vraiment différentes. Parce que, et ça c'est un point important dans ma réflexion, il y a, et je crois que c'est là la différence sans doute que j'ai avec Dominique Rousseau, quand je parle de conflits, je parle de conflits antagonistiques. Donc c'est pas simplement des conflits, il y a vraiment, ça c'est pour moi la politique a à voir avec le fait que dans les sociétés, il y a un certain type de conflit qui ne peuvent pas avoir de solution rationnelle. Donc, il y aura toujours, à un moment donné, des projets que j'appelle des projets hégémoniques de comment organiser la société qui vont s'opposer. Et contrairement à beaucoup de théoriciens libéraux qui pensent que l'objectif de la démocratie, c'est de trouver les moyens, les procédures qui vont permettre d'arriver à un consensus, moi, je dis, ce n'est pas la peine parce qu'il n'y aura pas de consensus possible. Donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer de trouver, d'établir les institutions qui vont permettre que lorsque le conflit va émerger, il va prendre une forme agonistique au lieu d'une forme antagonistique. La forme antagonistique, c'est la relation ami-ennemi. C'est certain qu'on ne peut pas penser démocratie pluraliste sur la base de la légitimation de ce type de conflit. Mais on peut imaginer les institutions qui permettront au conflit qui est inéradicable, il y aura toujours la possibilité qu'il émerge, de prendre la forme d'une lutte entre ce que j'appelle une lutte agonistique, une lutte entre adversaires. Donc, où on sait qu'on ne va pas pouvoir jamais se mettre d'accord, mais qu'on respecte le droit des autres à défendre leur point de vue. Et je crois que c'est ça pour moi la démocratie. Et un dernier point, là je crois nous parlons tous de démocratie, mais en fait, quand nous parlons de la démocratie chez nous, la démocratie qu'on appelle moderne, la démocratie occidentale, il est très clair que c'est déjà une articulation entre deux traditions différentes. Ça, c'est un point que je développe dans un autre livre qui vient de sortir aussi en même temps, qui s'appelle Le paradoxe démocratique, publié aux éditions des Beaux-Arts, où j'essaye de montrer qu'en fait, notre démocratie occidentale pluraliste, c'est deux traditions. Donc la tradition libérale, qui est la tradition de la défense des droits individuels, la séparation des pouvoirs. Là, je suis pas d'accord avec un point que fait Dominique Rousseau dans son livre où il présente la séparation des pouvoirs comme étant un principe démocratique. C'est un principe libéral. Mais je ne dis pas ça comme une critique. Je crois que pour moi, le fait de notre démocratie moderne, c'est très important, c'est d'avoir mis ensemble justement la tradition libérale du pluralisme, de la séparation des pouvoirs, de l'état de droit, avec la tradition démocratique, qui est la tradition de l'égalité et de la souveraineté populaire. La crise de la démocratie aujourd'hui vient en partie du fait que, à cause de l'hégémonie néolibérale, c'est l'élément libéral qui est devenu complètement dominant. Et tout ce qui a à voir avec la souveraineté populaire, l'égalité, ça a été mis complètement de côté. Et je crois qu'il est vraiment important aujourd'hui, et je crois que c'est un peu, les mouvements populistes d'une certaine façon montrent, et les mouvements comme Nuit Debout, il y a un désir justement de rétablir l'effet de la partie. Je sais que la souveraineté populaire, c'est problématique. Hein. Je crois que c'est Kelsen qui disait c'est un masque totémique. Bon, mais enfin, on peut passer, symboliquement, c'est trop important pour pouvoir dire, bon, on ne peut plus en parler, c'est trop archaïque. Donc, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de trouver les façons de rééquilibrer un peu le rapport entre l'élément libéral et l'élément démocratique. Parce que, au fond, toute l'histoire dans les deux derniers siècles de rapport entre le libéralisme et la démocratie, c'est qu'à un moment donné, c'est l'élément libéral qui était le plus important, un autre, c'était l'élément démocratique. Mais aujourd'hui, il est important de maintenir une espèce de tension. On ne peut pas jamais arriver à une résolution de cette tension. Mais le fait de la démocratie pluraliste, pour moi, c'est la tension entre les deux éléments, l'élément libéral et l'élément démocratique.
Mais en tout cas, c'est un rééquilibrage au sein d'institutions qui sont celles qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire les institutions de la démocratie représentative.
Oui, 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 absolument.
Dominique Rousseau.
Oui, alors je suivrai Chantal Mouffe, je vous suivrai dans votre analyse justement jusqu'à ce point, c'est-à-dire que Tout votre analyse, si je l'ai bien compris, consiste à partir de ami-ennemi et ensuite de dire cette distinction entre ami-ennemi que vous reprenez à Carl Schmitt est dangereuse pour la démocratie et il faut donc changer avec adversaire, non pas ami-ennemi mais des adversaires. Et la démocratie, c'est le conflit, c'est la discussion entre des conceptions, des visions du monde, ce que vous appelez des hégémonies, mais qu'on pourrait appeler des visions du monde, des visions de la société, conflictuelles, et qui ne peuvent pas se rejoindre.
Ça vous convient, ça?
Ah, ça me convient parfaitement, parce que c'est la réalité. Je veux dire, on est dans une société où des visions du monde s'opposent.
Enfin, c'est la réalité. En même temps, on entend beaucoup, au contraire, justement, le fait de dire il faut s'affranchir des clivages idéologiques. La droite, la gauche, ça n'existe plus. Il faut aller vers des formes de compromis,
alors,
de pragmatisme.
Moi, j'ai eu un professeur, Maurice Duverger, qui disait quelqu'un qui dit il y a plus de différence entre la gauche et la droite, c'est nécessairement quelqu'un de droite.
Oui, je me souviens de ça.
Donc, si vous voulez, c'est clair.
Les intéressés se reconnaîtront.
Au moins pour moi, c'est clair. Donc, non, le conflit, l'inverse du conflit, c'est la dictature. Le conflit est le moteur de la démocratie, c'est-à-dire que les gens ne sont pas d'accord, ils ont des visions du monde différentes, et par conséquent, ils s'opposent, et il faut qu'ils s'opposent, et la démocratie est précisément ce système politique qui permet aux visions du monde différentes, au pluralisme, on pourrait penser par exemple à Mireille Delmas-Marty, de s'exprimer.
Mais les institutions actuelles ne permettent pas d'accueillir ce conflit.
Alors, là où j'aurais peut-être une différence, c'est que vous dites dans votre livre que, justement, pour passer d'ami et demi à adversaire, il faut au moins qu'il y ait un dénominateur commun, une entente sur le socle, c'est-à-dire les institutions de la démocratie. Et vous citez Canetti sur la manière dont il conçoit le système représentatif et le système parlementaire. Et c'est là où j'aurais peut-être une différence, sous réserve de nos discussions. Je considère que précisément aujourd'hui, le système constitutionnel, alors peut-être parce que je suis constitutionnaliste, mais le système institutionnel, le Parlement, le Premier ministre, le gouvernement, etc., n'est plus aujourd'hui le socle commun permettant aux adversaires de s'exprimer. C'est-à-dire, on est actuellement en train de sortir de ce système. On considère, alors chez nous, par exemple, la Ve République, je pense que les gens qui manifestent à Nuit Debout et ailleurs, mais depuis un certain moment, considèrent que le système constitutionnel dans lequel on est, les vieilles institutions héritées du XIXe siècle, ne peuvent plus être le socle commun sur lequel des adversités, des visions du monde différentes puissent s'opposer. Et qu'on est donc on serait donc en train de basculer vers un autre système. Alors lequel? Une constitution par des gens tirés au sort, comme en Islande, une wiki-constitution. Enfin, il y a une imagination, je pense, à mettre en œuvre dans ce mouvement actuel.
Une constitution qui pourrait être écrite justement par les participants de Nuit Debout à République, c'est ce que vous avez observé à nos contreras, c'est-à-dire il y a un atelier qui a pour objectif de réécrire la constitution.
Il y a déjà une personne qui est arrivée avec un panneau en disant « je veux écrire une nouvelle constitution » qui a été rejointe par d'autres personnes, puis par une association qui elle-même avait commencé à réécrire la Constitution il y a quelques années, on peut l'entendre.
Voilà, il explique la méthode, il s'appelle le Wikicrate, alors Wiki qui fait référence évidemment au côté collaboratif, et Crate, c'est le pouvoir.
Nous, on organise des ateliers constituants, une fois par mois pour le moment, mais ça a vocation à ce qu'il y en ait partout. Et dans ces ateliers constituants, on explique d'abord ce qu'est une constitution, et ensuite, on parle des articles qui ont déjà été votés par les ateliers constituants précédents, soit qu'ils ont été adoptés, refusés ou à retravailler. Puis on propose un thème de travail. Ensuite, on demande aux participants, est-ce que vous êtes d'accord avec ce thème de travail ou est-ce que vous préférez revoir un article qu'on vous a cité, soit pour contester un article qui avait été validé avant, parce qu'on peut très bien le revoir, soit retravailler sur un autre thème. Ensuite, on se répartit en petits groupes, on va dire entre 5 et 10 personnes, parce que pour réellement élaborer et faire marcher de l'intelligence collective, il faut en passer par une phase où chacun peut s'exprimer. Et ensuite, on réunit à nouveau l'assemblée plénière de tous les participants et chaque porte-parole présente le travail qui a été fait pendant 2 heures. Et là, on fait un vote sur les articles. Les articles qu'on écrit là, n'ont pas vocation à devenir la Constitution. Parce que même si on ouvre nos ateliers à tout le monde, on sait très bien que les gens qui vont venir ne sont pas représentatifs du peuple. C'est, on va dire, c'est pour le moment, enfin, si on fait ça à Paris, c'est une élite parisienne. Mais ça vise simplement à faire de l'éducation populaire, à montrer que les gens du tout venant sont capables d'élaborer et de travailler ensemble malgré leurs divergences. Et notre vision, c'est que pour avoir la légitimité, il faudra que l'Assemblée constituante soit tirée au sort.
Alors je rappelle la question qu'on pose ce soir, hein. Faut-il confier la démocratie au peuple? On en discute avec le constitutionnaliste Dominique Rousseau et la philosophe Chantal Mouffe. Chantal Mouffe, qu'est-ce que vous pensez de cette façon de faire?
Mais écoutez, je trouve ça assez sympathique, mais surtout si on le limite au fait d'aspect d'éducation, de forme d'éducation. Il a l'air de se rendre compte que bon, c'est surtout une façon de faire comprendre aux gens qu'ils peuvent participer à la politique. Bon, je suis tout à fait d'accord avec ça.
Ça ne peut pas aller plus loin, il ne peut pas y avoir de co-construction.
Non, la grande question, c'est après ça, comment est-ce qu'on va pouvoir faire le passage institutionnel? On peut faire les programmes les plus fantastiques en assemblée, mais alors après, il faut tout de même qu'il y ait une traduction institutionnelle. C'est pour ça, moi j'insiste beaucoup sur le fait que une politique vraiment démocratique doit établir une synergie entre le mouvement horizontal et un certain verticalisme. Hein. C'est-à-dire, c'est ça, par exemple, que je trouve intéressant dans un mouvement comme Podemos, c'est que c'est un mouvement qui ne veut pas être un parti traditionnel, mais pas non plus un mouvement. C'est un mouvement, ils sont nés du terrain qui a été créé par les indignados, mais ils étaient très conscients, contrairement à la majorité des indignados, sur le fait que bon, si, on pouvait pas s'en limiter aux places, qu'il fallait à un moment donné entrer dans la question des élections et de participer au système, disons, représentatif. Alors, bon, c'est vrai que pour qu'il y ait justement cette synergie, il faut qu'il y ait aussi un développement du mouvement. Donc, si on considère Nuit Debout comme étant le premier stade, dis-moi, et qui après ils vont accepter justement entrer en contact, établir une synergie avec le système représentatif. Alors ça, je trouve c'est très positif.
Ça veut dire
mais
que
ce
si,
qui
si...
serait dangereux, c'est qu'ils veulent vraiment en rester à pas de chef, pas d'institution. Alors là, malheureusement, ça peut vraiment, il va se passer ce qui s'est passé avec Occupy. Hein,
mais en quoi c'est dangereux? Ça, à la limite, au pire, ça peut être inutile. Mais en quoi ça peut être un danger pour vous?
Non, je ne dis pas que c'est un danger. Je crois que non, plutôt, alors si j'ai dit ça, je me suis mal exprimé. Je crois que ça peut être inutile. Je dirais non, là c'est un peu trop fort parce que par exemple, je crois que même si finalement l'expérience de Occupy aux États-Unis n'a pas débouché sur un temps, le succès qu'a pour le moment Bernie Sanders. Et d'une certaine façon influencé par cette transformation qu'il y a eu de la conscience grâce à Occupy. De la même façon, je dirais qu'en Grande-Bretagne, la victoire de Jeremy Corbyn aux élections, ben ça aussi a eu à voir avec le fait de Occupy London Stock Exchange. Donc, je ne dis pas que c'est inutile, mais c'est pas suffisant. Voilà, c'est ça mon point de vue.
Dominique Rousseau, comment est-ce qu'on fait pour transformer des initiatives dont on voit qu'elles sont vraiment intéressantes en quelque chose qui se retrouve, on va dire, inscrit? Alors là, s'agissant du texte constitutionnel, j'avais envie de dire dans le marbre, c'est le cas de le dire, mais pour qu'effectivement qu'il y ait une suite quelque part, est-ce que il faut pas quand même passer justement par ce système représentatif, ou bien il faut imaginer d'autres institutions? Vous parlez dans votre livre, vous plaidez pour la création d'une assemblée sociale délibérative.
Oui. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, pour un constitutionnaliste, c'est de voir que même dans la Nuit Debout, il y a une commission qui s'intéresse à l'idée de constitution. C'est pas tout à fait, je crois, un hasard. C'est-à-dire dans tous les mouvements politiques très forts, la question du droit et la question de la Constitution se pose toujours. Il ne faut pas oublier qu'en 1789, quand on a fait la Révolution, la première chose que les révolutionnaires ont fait, c'est de rédiger une déclaration des droits et de rédiger une Constitution.
Mais elle a été rédigée par des représentants.
Alors, elle a été rédigée, justement, par des représentants qui se sont auto-désignés comme représentants. Il ne faut pas oublier que l'acte révolutionnaire, ce qui nous paraît un peu bizarre aujourd'hui, l'acte révolutionnaire a été pour les députés de dire qu'ils n'avaient pas de mandat impératif. Parce que s'ils avaient un mandat impératif, ils étaient liés par les cahiers de doléances, qui ne demandaient pas à ce qu'on coupe la tête au roi. Donc il a fallu qu'ils se déclarent indépendants des électeurs, donc ils se déclarent représentatifs, sans mandat impératif, pour pouvoir faire la révolution. C'est assez amusant. Enfin, amusant, intéressant. Votre question conduit, si vous voulez, je crois, à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, je pense que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les gens ont envie de parler. C'est un mouvement, si vous voulez, plutôt existentiel ou existentialiste que véritablement politique ou institutionnel. Aujourd'hui, alors peut-être qu'ils ont tort, effectivement, peut-être que ça débouchera sur rien, mais aujourd'hui, la question de la représentation, la question de l'institutionnalisation de ce qui se passe n'est pas, pour les gens qui sont sur le terrain, la question. Alors ils ont peut-être tort. Mais c'est comme ça. Et puisque vous dites, est-ce qu'on peut le faire, le titre de l'émission, c'est peut-on...
Faut-il confier la démocratie au peuple?
Bon, mais aujourd'hui, le peuple dit...
Le titre qui a fait un peu réagir sur Twitter.
Le peuple dit, nous, actuellement, on veut parler la question de l'institutionnalisation. Mais on sort de plus de 200 ans de régime représentatif. Les gens ne veulent pas remettre un autre régime représentatif. Podemos, c'est très sympa. Mais si c'est pour retrouver Podemos au gouvernement avec des ministres qui, dans 5 ans, dans 10 ans, ben, feront comme les autres, c'est ça la crainte. Et par conséquent, je crois qu'aujourd'hui, il faut prendre le mouvement tel qu'il est, sans chercher à lui donner, construire des grands commentaires. Le mouvement aujourd'hui est un mouvement qui veut parler. Alors, après, la question est de savoir si ce mouvement a une suite. Comment ça peut se traduire, par exemple, c'est votre question, en termes de la Constitution. Moi, je considère que le système représentatif ne peut plus fonctionner. Et que si un jour il y a alors une 7e ou une 8e république, peu importe le chiffre, ce qu'il faudra introduire, c'est des institutions permettant aux citoyens d'exercer leur capacité à fabriquer la volonté générale entre deux moments électoraux. Parce qu'actuellement, ce qu'on demande aux citoyens, c'est de voter. Et puis après, ils disent rien, et ce sont les représentants qui fabriquent la volonté générale. Il faut donc qu'il y ait une constitution qui prévoit les institutions permettant entre deux moments électoraux aux citoyens de continuer à exercer leur métier. Alors,
mais attendez, là, parce que il faut un peu clarifier les choses, parce que je suis d'accord avec vous qu'il y a le système représentatif ne peut plus fonctionner comme il existe. Mmh. Mais ça, c'est complètement différent de dire que le système représentatif ne peut pas fonctionner. D'ailleurs, bon, il y a pas mal de gens liés, par exemple, aux indignants qui disent le système représentatif, c'est un oxymore. On peut pas avoir démocratie et représentation. Bon, ça, c'est, il y a longtemps qu'on entend ça. Bon, moi, je défendrais plutôt la thèse qu'on peut pas avoir démocratie sans représentation. Mais alors là, c'est lié à toute une approche philosophique qui est à la base de ma réflexion. C'est-à-dire que si on part du fait que les identités ne sont jamais données, c'est la critique que j'appelle la critique de l'essentialisme, que les identités sont toujours construites, et les identités politiques, entre autres, certainement. Donc, ça veut dire qu'au fond, c'est à travers la représentation que se construisent les identités politiques. Le problème n'est pas d'avoir des identités déjà données, puis qu'elles doivent être représentées. Les identités, il faut les construire. Et c'est dans la représentation qu'on construit ces identités. L'idée même qu'on puisse avoir une démocratie sans représentation, pour moi, je ne vois vraiment pas ce que ça peut signifier. Mais si on parle du système représentatif comme il existe, je suis tout à fait d'accord. Justement, il n'est pas suffisamment agonistique. Il n'y a pas la possibilité de choisir. Je suis d'accord qu'il faut penser à d'autres formes qui vont venir s'ajouter. Il faut le transformer. Il faut le radicaliser. Là, je crois qu'on... Quand on parle en fait tous les deux de radicaliser la démocratie, mais je crois qu'on ne dit plus exactement la même chose.
Question d'Arnaud Contreras.
Oui, pas uniquement sur la place où se produit Nuit Debout, mais un petit peu dans différents cercles, on voit apparaître des initiatives comme Ma Voix ou comme Démocratie Ouverte qui invitent les internautes à préparer, à présenter, à proposer un député qui soit un député pouce-bouton. Finalement, quelqu'un qui viendrait à l'Assemblée nationale uniquement pour dire oui ou non lors d'un vote. Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives?
C'est le retour du mandat impératif, ça, Dominique Rousseau?
Oui, non, ça, c'est... Oui, enfin, c'est... Si vous voulez, ce qui est intéressant de voir, c'est l'émergence d'initiatives, alors qu'on va dire un peu folles, Hein, mais bon, c'est le moment actuel. Moi, je pense, comme vous, Chantal Mouffe, qu'il faut de la représentation. Il n'y a pas de démocratie, je l'écris d'ailleurs, il n'y a pas de démocratie sans représentation. Le problème de la représentation aujourd'hui, c'est qu'il y a, comment dire, il y a une dimension tragique dans la représentation. C'est-à-dire, il n'y a pas de démocratie sans représentation, mais en même temps, la représentation peut étouffer la démocratie. Et jusqu'à présent, c'est ce qu'elle a fait. Et par conséquent, si on a à travailler, me semble-t-il, dans une idée de radicalisation de la démocratie, c'est précisément de faire en sorte que la représentation qui est nécessaire ne se retourne pas contre la démocratie. Et je serais, par exemple, beaucoup plus favorable, plutôt que ces députés presse-boutons, à ce qu'on imagine des assemblées primaires de citoyens, c'est-à-dire les citoyens se réunissent dans les circonscriptions électorales, et les députés auraient l'obligation de faire discuter dans les assemblées primaires de citoyens tous les projets et propositions de loi avant qu'elles aillent devant l'Assemblée nationale.
Ce serait quoi, des assemblées consultatives ou délibératives ?
Délibératives. C'est-à-dire que le député, aujourd'hui, un projet de loi, il passe obligatoirement devant le Conseil d'État. Bon, ben je propose qu'un projet de loi, avant d'être discuté à l'Assemblée nationale, passe obligatoirement devant le peuple qui serait réuni dans des assemblées primaires de citoyennes. Il y aurait donc une participation entre deux moments électoraux. On ne supprime pas la représentation, les députés, on ne supprime pas la représentation, elle est nécessaire à la démocratie, mais on empêche qu'elle étouffe le citoyen en créant des assemblées primaires de citoyens où les projets de loi seront délibérés dans ces assemblées avant d'être délibérés à l'Assemblée nationale.
Que pensez-vous de cette idée, Chantal Mouffe?
Je ne suis pas non plus très, très enthousiaste avec l'idée du député presse-bouton, je dois dire. Parce que, bon, ça implique d'une certaine façon une idée de que les intérêts sont déjà donnés, que le représentant... Moi, je vois plutôt le rapport représentant comme un rapport de co-imbrication. Je veux dire, c'est pas... à travers la représentation, le représenté crée les intérêts et transforme aussi... Et je suis d'accord que jusqu'ici, enfin, en tout cas pour le moment... Le système représentatif a plutôt, en tout cas certainement dans les dernières décennies, eu tendance à étouffer. Là, je suis complètement d'accord. Par contre, il me semble que ce qui est vraiment fondamental pour redonner un sens à ce système représentatif, pour que vraiment on n'ait pas seulement une voix, un vote, mais aussi une voix, c'est ce que j'appelle créer un véritable débat agonistique. Donc, qui est, parce que, et je reviens sur le fait que le problème aujourd'hui, c'est le fait qu'il n'y a pas de différence entre la droite et la gauche. Les citoyens, quand ils vont voter, à mes étudiants parfaitement rigolants, c'est comme avoir un choix entre Coca-Cola et Pepsi-Cola. Alors, il est évident que c'est pas vraiment avoir une voix. Et il y a un autre point sur lequel je voudrais insister.
Pardonnez-moi juste, Chantal Mouffe, mais ce débat agonistique, par exemple, il a existé en France au moment du débat sur le mariage pour tous. On a bien vu à quel point la société pouvait être clivée sur cette question et que le conflit existait et qu'il en est sorti justement quelque chose d'intéressant, non?
Oui, mais alors là, c'est un problème qui... les oppositions... Oui, mais c'était tout de même très limité, parce que quand je parle d'un véritable débat agonistique, je pense à un débat qui a à voir avec la une façon de... On en parlait avant, des projets hégémoniques différents, dire pas sur des points ponctuels. Dire, par exemple, bon, moi, je crois qu'aujourd'hui, un des grands problèmes, c'est que... pratiquement, le sens commun est tel qu'on a accepté la thèse qu'il n'y a pas d'alternative à la globalisation néolibérale. Donc, quand les partis soi-disant socialistes arrivent au pouvoir, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de gérer de manière un petit peu plus humaine la globalisation néolibérale. Donc, en fait, ce dont on a besoin, quand je parle d'un débat véritablement agonistique, c'est qu'il y ait une alternative qui soit présentée à la globalisation néolibérale. Aussi longtemps qu'on n'aura pas ça, on n'aura pas un véritable débat agonistique.
Voilà, et pour en savoir davantage, il faut lire votre livre, Chantal Mouffe, L'illusion du consensus, qui vient d'être publié aux éditions Albin Michel. Il faut lire également l'ouvrage de Dominique Rousseau, publié l'an dernier aux éditions du Seuil, Radicaliser la démocratie, proposition pour une refondation. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette discussion. Merci également à Ardo Contreras. Je renvoie au documentaire qu'on a écouté écouté tout à l'heure, mais qui est disponible à la réécoute sur notre site, documentaire de Sur les Docks, qui s'intitulait, rappelez-moi le titre que vous aviez choisi,
Jour et nuit debout.
Voilà, Jour et nuit debout, que vous avez réalisé avec Julie Berrecy. Merci beaucoup. Je renvoie également sur notre site internet franceculture.fr au dossier multimédia Une brève histoire du mot démocratie participative. Un article signé Chloé Le Prince. Dans les remerciements, il ne faut pas que j'oublie l'équipe du Grain, Cyril Baer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Fanny Richer, Hugo Florent. Émission réalisée par Anna El Fakir avec à la prise de son Alexandre Dang. Demain, question qui n'aura pas grand-chose à voir a priori avec le sujet d'aujourd'hui. La chanson française a-t-elle quelque chose à dire ? Tout de suite, c'est Ping Pong, Mathilde et Martin. Bonsoir.